Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir François Olinger, qui est expert de la mobilité en Europe, mais aussi un des nouveaux associés de TOLV. Bonjour François.
Bonjour à tous.
C'est un plaisir de t'avoir pour l'Entertainment Lab. Alors je voulais t'inviter parce que tu as un parcours vraiment intéressant dans la mobilité, dans la tech, donc dans l'univers des startups aussi. Et puis tu as un peu un rapprochement avec l'Allemagne, on va en parler avec l'Europe. Tout d'abord, est-ce que tu peux revenir un peu sur les bases de ton parcours ?
Oui, grand plaisir. Écoutez, je m'appelle François, j'ai 35 ans et j'ai un parcours effectivement un peu atypique, donc classique jusqu'à l'école de commerce à Lyon, puis bon, une sortie en FMCG, conseil en stratégie, et là, la mobilité m'a appelé et donc j'ai pu déménager en Allemagne pour commencer une carrière chez Flixbus, que vous connaissez certainement, qui sont les grands bus verts qu'on voit désormais partout dans le monde.
D'accord, Flixbus, parfait. Et t'es arrivé quand en Allemagne justement ? Tu t'es établi quand ?
Donc je suis arrivé en 2017 et on a pu monter une formidable aventure. Puis on a été frappé par le Covid de plein fouet. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint EasyPark, qui est le leader mondial des solutions de parking intelligentes. Puis, la carrière avançant, j'ai eu l'opportunité de diriger une entreprise qui s'appelait Troupi, qui était un des concurrents de scooters électriques partagés à Paris, notamment le concurrent direct de Feu City Scoot. Et là, plus récemment, j'ai été approché par les fondateurs de TOLV, qui est donc une entreprise qui fait ce qu'on appelle du rétrofit industriel, c'est-à-dire qu'on va chercher des véhicules thermiques et on va changer leur moteur en électrique. Mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure.
D'accord, donc tu es vraiment un pro de la mobilité. Pourquoi tu es allé vers cette voie, en fait ? Qu'est-ce qui s'est joué dans tous ces choix-là, en fait ?
Je pense qu'au début, on est un peu happé par intérêt, par curiosité. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a un rôle à la fois écologique, puisque les transports sont quand même un des facteurs polluants majeurs sur cette planète. Donc on a une vraie action, un vrai impact direct. Et ce que j'ai beaucoup aimé, notamment sur la dernière entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est l'impact social, c'est la capacité d'aller utiliser l'existant pour en faire quelque chose de neuf, et de permettre à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir aujourd'hui s'acheter un véhicule électrique.
D'accord. Alors TOLV, en quelques mots, les initiales et le concept de la boîte ?
Donc TOLV, c'est l'anagramme de Volt, que vous connaissez bien évidemment tous. L'objectif de TOLV, c'était de pouvoir permettre de faire ce qu'on appelle donc du rétrofit, sortir un moteur thermique d'un véhicule thermique pour pouvoir en faire un moteur électrique. Ça commence par du travail en chambre pour créer un moteur électrique, ce qui est extrêmement compliqué, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et ils ont réussi à avancer dans leur méthode industrielle jusqu'à devenir partenaire de Renault. Et aujourd'hui, on est partenaire privilégié de Renault. Il faut savoir qu'on est les seuls en Europe à pouvoir faire ce qu'on appelle une homologation industrielle. Si je vous la donne de façon très courte, le rétrofit, ça s'est développé notamment avec les Méhari, que vous connaissez.
Ah oui, la fameuse, le gendarme de Saint-Tropez. Quoi.
Exactement, voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle du rétrofit individuel, c'est que vous ramenez votre Méhari et on vous la transforme. Et aujourd'hui, TOL va réussir à passer à l'étape suivante, qui est du rétrofit industriel, donc dans une usine, qui est celle de Renault à Flins, dans le nord de Paris. Et c'est de la capacité d'aller rétrofiter un seul modèle, mais de façon continue, c'est-à-dire qu'on peut aller rétrofiter 10, 20, 100, 1000 véhicules si on le souhaite.
Rétrofit, alors pour les novices, comment tu le définis ?
Alors le rétrofit, c'est la capacité industrielle qu'on a à sortir un moteur thermique, donc avec du diesel, pour pouvoir mettre un moteur électrique à la place.
Et donc d'accord.
C'est un peu une greffe, si vous voulez, sur une ancienne carcasse de voiture. Et ça de bien que ça permet effectivement de passer sur un véhicule électrique, mais ça permet surtout de ne pas recréer un véhicule de toutes pièces.
D'accord, donc c'est vraiment un constructeur de moteur, mais avec une dominante électrique beaucoup plus poussée que la normale.
Exactement, et ça vient surtout de se positionner entre les nouveaux véhicules électriques qui, s'ils sont très performants, restent quand même aujourd'hui relativement chers, et les véhicules thermiques qui sont peu chers, accessibles, produits en masse, mais qui demain ne seront plus acceptés dans les centres-villes, dans certains endroits où on va être de plus en plus drastique sur la réglementation.
Et donc, c'est combien de personnes, Théo LV ?
Donc pour l'instant, on est un peu moins d'une quarantaine et on finira l'année 2024, je pense, autour de 50.
Et donc, c'est basé entre l'Allemagne et la France ?
C'est basé à Grenoble.
Grenoble,
ouais, je reviendrai sur l'histoire allemande tout à l'heure, mais c'est vrai que la boîte a été fondée par 4 jeunes ingénieurs de Grenoble à Grenoble. Et à partir du moment où ils ont voulu scaler, effectivement, devenir un peu plus gros, un peu plus dense, ils ont fait venir des gens de l'extérieur, de la maturité, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher.
C'est assez audacieux et courageux dans l'industrie, en plus, parce que souvent, en France, on est pas un petit peu en retard par rapport aux Allemands. Tu vois, ça fait un pont, mais c'est vrai que c'est parfois, il y a un challenge sur les sociétés industrielles en France.
Alors, je suis extrêmement admiratif de ce qu'ils ont réussi à faire. Du haut de leur sortie d'école jusqu'à maintenant, ils ont passé la période Covid, ils ont passé beaucoup de périodes de doute pour aller se lancer dans la création d'un mini-constructeur de véhicules, finalement.
Il faut y aller, quand même. Hein.
Exactement, il faut y aller. Et honnêtement, tenir la dragée haute à Renault, négocier avec eux, parce qu'en fait, comment ils sont passés du rétrofit individuel de véhicules à du rétrofit, on va dire, massif et industriel, c'est qu'on fait un partenariat avec Renault, Renault nous fournit les pièces, on co-construit le moteur. Et je ne sais pas si vous imaginez le nombre de centaines de micro-pièces qu'il y a dans un moteur. Si même il est plus simple que le moteur thermique, il reste quand même très très complexe à créer. Mmh. Donc c'est très très audacieux et on va dire très encourageant en tout cas pour la suite.
Intéressant. Donc c'est vraiment une espèce de co-construction entre les ingénieurs d'un constructeur comme Renault et une société comme Théo LV, quoi.
C'est exactement ça.
C'est un partenariat, quoi.
Et c'est de pouvoir matcher en fait l'expertise et l'approche massive de Renault qui finalement, quand on leur parle de 1000 véhicules, pour eux c'est un samedi matin. Mais en réalité, 1000 véhicules rétrofités, c'est déjà énorme pour le parc auto.
Sans faire tout le business model, c'est de l'achat de licence et c'est du royalty sur le vente des moteurs. C'est comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, en fait, le véhicule, il est vendu une certaine somme. Cette somme, elle est, on va venir en déduire des primes d'État.
Juste, okay.
Voilà, pour savoir aussi, pour faire de la pub auprès de nos auditeurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État, et notamment avec la dernière loi qui est sortie début janvier, ce qu'on appelle le leasing électrique, pousse à l'achat de véhicules électriques. Et nous, après, en fait, on va splitter la marge entre Renault et Tolv.
Et le constructeur. Ah, très intéressant, voilà. Sur le mécanisme d'achat. Pour élargir un petit peu, donc c'est intéressant, c'est que tu as été dans la mobilité, qui est un sujet chaud hein, sur effectivement l'évolution, tu l'as dit, avec l'environnement et l'écologie et ces nouvelles façons. Ça, tu vois un vrai shift. Toi qui as vécu les différentes boîtes là-dedans, comment tu vois cette évolution depuis quelques années ?
Ah, au global, c'est intéressant de suivre la perspective déjà européenne qui est très conservatrice sur plein de choses. On a parmi les plus grands constructeurs automobiles du monde, on a des constructeurs qui sont les plus premium du monde et on voit l'arrivée, l'émergence de constructeurs électriques qu'on connaissait pas il y a même 6 mois. Si je vous parle de BYD, si je vous parle de VinFast, les connaisseurs savent, mais aujourd'hui on sait pas que BYD c'est le plus gros constructeur de véhicules électriques du monde, c'est une boîte chinoise.
Ouais, on n'en parle pas tout
voilà.
Ça.
Voilà, leur valorisation vient de dépasser celle de Tesla. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'Europe est un formidable laboratoire. Je rappelle, c'est un continent qui a à peu près la taille des États-Unis et à peu près sa population. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est à harmoniser les règles et surtout à harmoniser un point de vue. Et ça, c'est pas que pour la mobilité, on le voit pour la politique agricole, etc. Et ce qui rend la chose compliquée, c'est que typiquement, le véhicule électrique, même s'il est nettement moins néfaste que le véhicule thermique, on n'est pas sûr que ça soit la perspective de demain. On n'est pas sûr que dans 150 ans, quand on construira plein d'autres choses qui volent ou qui roulent, ça soit à base de moteurs électriques. Donc c'est là où c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et après, si on descend la lentille au spectre de notre vie à tous les jours, ce qui est extrêmement intéressant en Europe, comme je disais, on a un beau laboratoire des différents usages de la mobilité. Et ça va du vélo au vélo cargo, à la trottinette, au scooter. Et effectivement, sur la partie automobile, je pense que le rétrofit fait partie des choses extrêmement intéressantes qu'on voit émerger. Les bornes de recharge, on a quand même des gros acteurs. Les batteries, et je pense par exemple, on a Lithium de France, Vercors, c'est des très très grosses boîtes qui sont en train de se monter et on a la chance en France de pouvoir le faire. Donc je pense que l'écosystème est en pleine émulation et de ça va sortir peut-être des nouveaux constructeurs, peut-être des nouveaux créateurs de batteries, peut-être des nouveaux créateurs de sous-composants. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce qu'a fait Sam Altman sur « si j'avais 7000 milliards de dollars, je lancerais un créateur de composants pour les puces ». Mmh. Donc ça fait partie des vrais enjeux du moment, en tout cas dans notre microcosme à nous.
D'accord. Et donc ça représente combien aujourd'hui en proportion l'électrique sur les moteurs traditionnels, tu dirais ? C'est une part qui est en train de grandir.
C'est une part qui est en train de grandir. Aujourd'hui, si on est entre 10 et 15% du parc,
Pas mal déjà.
Ce serait déjà pas mal. Pour donner un exemple, il y a une loi qui est sortie en 2019 qui s'appelle la loi de l'orientation des mobilités ou loi LOM, qui était censée cadrer beaucoup de points spécifiques de la mobilité des transports. La première, c'était sur la micromobilité que vous connaissez tous, les vélos, les trottinettes, les scooters. Donc ça, on a mis en place un cadre, une structure pour permettre aux villes de faire des appels d'offres. Mmh. Il y a une partie qui était aussi mise en place sur la création d'un réseau de bornes de recharge, avec l'engagement d'en avoir environ 400 000 en Europe d'ici 2035. Mmh. Donc pour l'instant, on est quand même relativement loin de ce chiffre-là. Et effectivement, sur la partie subvention aux véhicules électriques, et oui. C'est un engagement que, par exemple, les entreprises de plus de 100 salariés doivent prendre. C'est-à-dire qu'une part de leurs achats, donc je ne parle pas du parc, mais des achats, doivent être faits à hauteur de 20%, 25%, 30% de leur véhicule. Donc si tu en achètes 100, 30 doivent être électriques. Et c'est là où le rétrofit vient se positionner de façon plutôt maligne. C'est de dire, au lieu de t'embêter à payer un véhicule qui reste relativement cher, bah nous, on va te trouver une solution pour rétrofiter, c'est-à-dire changer un véhicule de ton parc. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, leur déclaratif, je donne un exemple type, une entreprise de bâtiment va avoir 100 véhicules utilitaires, et son engagement, c'est que d'ici 2035, un tiers de sa flotte soit de l'électrique. Donc 30 véhicules. En fait, le fait de payer du rétrofit, qui est quand même relativement moins cher qu'un véhicule neuf, va lui permettre très très rapidement d'avoir des véhicules électriques chez lui. Et ça comporte deux intérêts, et je vais dans le détail, mais c'est pour que les auditeurs comprennent aussi. C'est que les entreprises de BTP, de transport, etc., déjà, acheter un véhicule électrique, c'est cher. C'est cher et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises font souvent des aménagements dans les véhicules. On s'en rend pas compte, nous, quidam, qui allons acheter, par exemple, notre pain ou qui allons à la quincaillerie, mais en réalité, les entrepreneurs, quand ils ont un énorme van derrière, ils vont créer des établis, des étagères. Et tout ça, ça coûte très très cher. J'ai été le premier surpris en découvrant ce monde-là qu'on pouvait même mettre 10 000, 20 000, 30 000 euros dans un véhicule. L'exemple type, c'est les camions frigorifiques, qui sont des véhicules standards qu'on va venir changer pour pouvoir les frigorifier.
Ah oui, donc c'est super technique, en tout cas, tout ce que tu racontes. Et donc, c'est pour ça que tu as lancé ce think tank dans l'univers de la mobilité.
Exactement. L'objectif du think tank, aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler autour de la table des gens qui, justement, sont impactés par la loi LOM. L'objectif du think tank, c'est de venir de façon interstitielle, c'est-à-dire entre tous les acteurs qui existent déjà, les syndicats, les grands groupements.
Les lobbies industriels. Cette loi LOM, tu peux la redéfinir, le grand gros ?
Ouais, tout à fait. Donc en 2019, on a sorti une loi qui permettait d'orienter les différentes mobilités sur plusieurs piliers. Et comme je le disais, ça va des différents parcs de véhicules électriques à la création d'un réseau de bornes de recharge, l'entrée des nouvelles mobilités au sein des métropoles et des villes. Et ça, c'est censé pouvoir harmoniser en fait l'approche des nouveaux véhicules et en gros, respecter les accords de Paris sur la décarbonation, et notamment la décarbonation des transports et des centres-villes.
Mais alors pourquoi on a l'impression qu'on est encore autant en retard ? Parce que quand à t'écouter, c'est quand même un vrai mouvement qui est à l'œuvre. Et puis côté médiatique, on a l'impression encore que l'environnement, on est un peu dans les choux. Comment tu l'expliques, toi, finalement ? C'est que c'est pas si simple d'influencer les mentalités globales, industrielles, j'imagine, des constructeurs.
C'est exactement le pourquoi du comment on a lancé ce think tank. C'est qu'aujourd'hui, on connaît les acteurs en place et ils font tous un réel effort pour que ça fonctionne. Mais ce qui nous manquait, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre autour de la table à la fois des créateurs d'entreprises, des patrons de grands groupes, des députés, des sénateurs, et enfin les personnes qui vont gérer le régulateur, c'est-à-dire les villes, les métropoles. C'est-à-dire, je suis maire d'une grande ville. Concrètement, quels sont mes outils à disposition ? Un, il faut que je les connaisse, et deux, il faut que je sache comment les mettre en place. Et ça, en fait, c'est un des points bloquants. On a l'impression, je pense, que les politiques écologiques, c'est sur le papier et qu'il ne se passe rien derrière. C'est absolument pas vrai. C'est que sur certaines choses, et notamment la mobilité, on recule parce qu'on est parfois dans des situations d'impossibilité. Je vais donner un exemple qui va certainement parler à vous et aux auditeurs. C'est ce qu'on appelle les zones à faible émission. Je ne sais pas si vous êtes clair, mais les zones à faible émission, c'est typiquement dans le centre-ville de Grenoble, de Strasbourg, on va avoir un accès qui va être limité à certains véhicules. Par exemple, les vignettes critères 1, 2, 3. Donc, c'est en fait des vignettes qui sont données aux véhicules selon leur date d'entrée en circulation. Et je donne un exemple, tous les véhicules électriques sont critères 0. Et dans un monde pur et parfait, tous les centres-villes ne seraient accessibles qu'à des véhicules électriques. Sauf qu'une fois que j'ai dit ça, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on va recharger tous ces véhicules? Comment est-ce qu'on va les garer dans la rue, etc., etc. Et en fait, plus on tire la pelote de laine...
C'est ça la grande difficulté. On le voit sur les grandes villes, parce qu'on voit que tout n'est pas vert, c'est le cas de le dire, ou rose, avec cette évolution. Les problématiques de circulation, on ne va pas citer la capitale de la France, mais bon, on voit qu'il y a quand même des sacrés challenges. Et il y a tout ça aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui doivent transiter, qui n'ont pas que des moyens d'aller être en écologique ou en vélo. Et enfin, c'est des problématiques quand même de circulation ou d'urbanisme qui ne sont pas si simples.
On est d'accord. C'est exactement ça. Et l'exemple de Paris est un très bon exemple, puisqu'en fait, on a là, on va rentrer dans le politique un peu, mais on a une mairie qui est plutôt de gauche et une mairie qui essaye de mettre en place des choses qui sont parfois très clivante.
Mais qui est très critiquée quand même à l'approche des JO. Enfin, c'est quand même là, c'est quand même incroyable. Il y a un des événements les plus incroyables qui arrivent en France et on n'entend que du négatif, du flip sur des histoires de circulation, de comment ça va se passer, de Français qui vont quitter l'Île-de-France. Enfin, tu vois, c'est un peu plus polémique, mais comment tu vois ce truc-là? On est d'accord que c'est pas simple, le truc.
Bah, je pense que c'est bien résumé la situation aujourd'hui en France. C'est que, alors, hors le fait que certainement, parfois, la politique est décorrélée de la vie de tous les jours, de nous tous. Et or, le fait que les grands projets doivent parfois être suivis de plein de petits projets qui finalement fonctionnent. Et c'est l'exemple type des transports pendant les Jeux Olympiques.
Oui. J'ai l'impression qu'on se réveille un peu tard sur la question. Enfin, je ne sais pas, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est... Enfin, en tout cas, c'est les signaux qu'on entend beaucoup. C'est que...
Alors, ça, c'est un sujet que je maîtrise un peu moins sur la partie JO, mais typiquement sur la partie des transports. Si je prends l'exemple de deux faits marquants, là, ça, c'est plutôt mon secteur d'activité, c'est le fait d'avoir sorti les trottinettes de Paris. Ça, je ne sais pas si vous avez tous suivi, mais il y a eu une votation il y a quelques mois sur est-ce qu'on veut conserver les trottinettes en libre service partagé.
D'accord, je
sais pas. Et donc, ils ont sorti les trottinettes. Et donc, vous avez des opérateurs qui sont massifs, hein, comme Dot, comme Lime, comme Tire, qui ont été sortis de Paris. Il faut savoir une chose, c'est que Paris, non content d'être la capitale de l'Europe, c'est la capitale du monde. C'est que quand Paris fait quelque chose, tout le monde regarde. Et ce qui s'est passé avec les trottinettes, c'est en train de se passer avec les SUV. La dernière votation qui a été mise la semaine dernière, c'est on va faire payer le parking plus cher aux SUV. Et donc, ça, sur le papier, on peut se dire, soit c'est horrible pour les gens qui ont un SUV, soit
c'est déjà très cher, les parkings à Paris. Ça a vachement augmenté, en plus, les stationnements.
Bien sûr, c'est horriblement cher. Et après, quand on va dans le détail, c'est non, c'est pour les gens en transit, etc. Mais le fond du fond de la loi, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de dire aux gens qui sont en SUV, ne conduis pas un SUV. La seule difficulté qu'on a, c'est qu'on est obligé de passer par du punitif pour pouvoir le faire. Et je reviens sur la loi L'Homme du tout début. C'est que comme son nom l'indique, c'est une loi d'orientation, c'est-à-dire qu'on propose aux villes de faire des choses, et c'est bien parce qu'on leur propose de faire des choses que les choses ne marchent pas. Mmh. Alors la théorie, je suppose, des gens à Paris, par exemple, c'est de se dire, bah non, on va imposer, on va faire ça comme ça, parce qu'on sait que ça va passer en votation, et de toute façon, les gens s'y feront à l'usage. Et en fait, pour répondre à la question originelle qui était pourquoi on est décorrélé de la politique ou pourquoi on a l'impression que ça marche pas ou que ça avance pas, mais en fait, c'est ça. C'est que si on propose quelque chose de trop consensuel, ça n'avancera pas, puisque certaines mairies diront non. Et si on se met directement dans le punitif...
Oui, ça marche pas non plus.
Bah, en fait, à la fin de la journée, Hidalgo, elle se fait taper dessus.
Faut quand même voir un peu l'utilisation des gens. Moi, par exemple, je suis bluffé, les chauffeurs de taxi, ils s'en sortent plus, quoi. C'est quand même un métier aussi. Ils n'arrivent pas à circuler et à chaque fois qu'on revient dans Paris, ça devient très dissuasif d'y aller avec un véhicule. Donc après, je ne sais pas comment ça se gère. Mais bon, enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Là, on rentre dans un autre sujet qui est, je pense, assez pas si simple que ça. Juste en quelques mots sur l'Allemagne, parce que donc tu t'es impliqué beaucoup sur le French Tech Munich. Ça, tu peux en parler un peu, voilà. Et puis aussi voir la différence de traitement de l'Allemagne, qui normalement est un peu plus en avant sur ces problématiques green et tout ça. Si tu peux parler un peu de ton regard là-dessus.
Ouais, grand plaisir. Bah, c'était l'occasion, lorsque j'étais chez Flixbus, de monter le réseau French Tech à Munich avec sept autres cofondateurs. Donc le réseau à Munich, c'est comme une grande ville de province. Voilà, on finit par très vite tous se connaître. Et on a eu l'opportunité, via l'ambassade, de monter ce réseau. L'objectif, je rappelle, des réseaux French Tech, c'est de pouvoir permettre aux entreprises françaises, les startups, les scale-up qui ont envie de se
développer.
Exactement, de se lancer sur le marché allemand, de pouvoir le faire. Et nous, en fait, on fait office de... on va dire de door opener, comme on dit en anglais, de pouvoir permettre d'ouvrir les portes à droite à gauche, que ce soit sur la partie régulation et les contacts institutionnels. Et on est vachement bien aidé par exemple Business France, qui est un très bon partenaire. Et on a aidé à installer plein de boîtes sympas en Allemagne. Je peux donner l'exemple de Malte, d'October. On a vraiment Conto, on a aidé beaucoup de boîtes sympas à se lancer.
Il y a un gros challenge quand même économique pour la France de réussir un peu plus à internationaliser. C'est un peu là où il y a quand même du boulot.
Exactement, et ça fait partie des grosses questions du moment sur la French Tech. Je suppose que si vous passez autant de temps que moi sur LinkedIn, vous voyez passer des articles, des échos sur est-ce que la French Tech, ça fonctionne vraiment? Où sont les gaps? Et c'est assez marrant parce que je fais une digression, mais ce matin, j'ai un ami qui me présentait un rapport de Roland Berger sur la mobilité.
Oui.
Et en fait, on voit que le financement en seed fonctionne bien. C'est-à-dire que même encore l'an dernier, ça a bien fonctionné et qu'il y a un drop énorme sur le financement série B, série C. Donc, c'est-à-dire le moment où il faut vraiment soutenir les boîtes pour qu'elles se développent. Mmh. Et c'est ce moment-là, en fait, où tu t'internationalises. C'est ce moment-là où tu dis, allez, banco, on va en Allemagne, on va en Italie, on va en Espagne.
Ouais. Donc, ça reste un sujet de capitaux et de financement, je dirais, en phase amont, là où les US sont soi-disant un petit peu plus matures. Cette phase d'amorçage, je sais pas si c'est ça qui se joue un peu sur la tech en Europe.
Tout à fait. Et la différence, c'est que les États-Unis, t'as un seul marché commun qui fait la taille de l'Europe. Donc forcément, lever 50 ou 100, c'est beaucoup plus facile. La difficulté de l'Allemagne, en plus de ça, c'est que il faut vraiment y avoir vécu pour comprendre que c'est un pays archi différent du nôtre. C'est assez paradoxal de se dire que notre pays voisin et ultra différents.
Les fameux lenders qui ont tous leur propre mécanique, c'est ça, hein?
Exactement, et surtout la Bavière qui pour le coup est un lender magnifique, extrêmement bien peuplé, c'est le deuxième lender le plus riche d'Allemagne, et c'est la Bavière, c'est pas l'Allemagne, donc c'est-à-dire que tu viens t'installer en Bavière, c'est vraiment différent, c'est un petit pays à part, t'as des Mittelstand, donc les Mittelstand c'est les espèces de grosses PME, et elles sont en plein milieu, c'est comme si tu allais dans la Creuse et tu as une usine de 10 000 personnes. Donc ça, c'est ce que tu vois très souvent là-bas. Donc tu as beaucoup de valeur qui est créée. Tu as des très grosses boîtes, dont BMW qui est un des phares de la Bavière. Et en fait, on se dit, tiens, c'est facile parce qu'ils sont voisins, parce qu'il y a des Français qui ont fait leur carrière là-bas. Et en fait, c'est assez compliqué de
rentrer sur le marché.
Ça, exactement. C'est... Et surtout qu'en fait, il y a une différence culturelle qui est absolument énorme. Autant tu vas en Italie, en Espagne, je pense qu'au bout de 2-3 semaines, tu arrives à te comprendre. Les Allemands...
C'est un nouveau monde. C'est comme les Pays-Bas, quoi.
Exactement.
C'est beaucoup plus spécifique.
Tout à fait, ouais.
Et juste, comment t'expliques, toi, parce que c'est toujours le fameux... Comment l'Allemagne, tu estimes, est beaucoup plus mature sur ce sujet industriel? C'est vraiment culturel, où il y a aussi du financement, c'est plus moderne. Comment t'expliques qu'eux, ils continuent à être en pointe et que les Français, quand même, ils ont l'air de ramer un peu, quoi?
C'est assez compliqué de faire le parallèle parce qu'en réalité, je pense que sur la partie green, ce qui était le début de ta question, ça fait quand même 30 ans ou 40 ans qu'il y a une vraie mentalité.
Ouais.
Et moi, ça a été un des premiers chocs quand je suis allé habiter là-bas. Et ma femme étant bavaroise, il m'a fallu un an d'adaptation à trier, par exemple, ses déchets, ce qui est débile quand je le dis à voix haute. Mais en fait,
ils sont beaucoup plus poussés que nous là-dessus.
Non, mais t'as 5 poubelles, tu n'as pas le droit de jeter les bouteilles le samedi matin. C'est débile parce que c'est les Allemands fonctionnent par les règles pour les règles, mais c'est ça qui permet l'harmonie. Et alors, je pense que le premier truc qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est une société extrêmement moins individualiste que la France. D'accord. Et c'est un avantage pour les Français, ça leur permet d'être vachement plus créatifs, je pense. Mais c'est compliqué pour
tenir les infrastructures,
exactement,
respecter
voilà.
Le pays, c'est un peu tout le problème, quoi.
Exactement.
Alors que là-bas, ils s'imposent d'eux-mêmes toutes ces disciplines, c'est ça.
Exactement. Et tu vois, je fais partie d'un autre réseau qui s'appelle les conseillers économiques français. Et c'est des cercles qui existent dans chacun des pays où t'es élu. C'est une candidature, t'es élu par le premier ministre. Et ce cercle-là est là aussi pour, par exemple, permettre les VIE. Donc, c'est eux qui sont en charge des VIE dans les différents pays. Et ça nous permet surtout d'aller visiter différentes entreprises. Et alors, une des clés de la réussite de l'Allemagne, c'est vraiment ce réseau, donc ce qu'on appelle les Mittelstand. C'est qu'à la différence des PME ETI en France, qui sont nombreuses, mais qui sont de petite taille pour des petits revenus, je vais dire un chiffre au hasard, mais on va être entre 30 et 50 millions de chiffre d'affaires.
D'accord.
Une grosse Mittelstand allemande, ça va être le leader mondial dans son secteur, et ils vont faire 500 millions de chiffre d'affaires.
D'accord, c'est pas les mêmes échelles.
Exactement,
non plus.
Mais ils vont créer le petit boulon spécifique qui va permettre de faire de l'aéronautique, ils vont créer le joint en silicone qui va permettre de fermer les fusées, enfin c'est ce genre de choses-là que les Allemands
font. Et il y a un tissu qui est peut-être plus proche avec les prestataires aussi, non? Ils ont un tissu qui est un peu plus développé dans les relations entre les boîtes, non?
Exactement. Et c'est souvent d'ailleurs construit sur des boîtes qui sont centenaires. C'est rarement des boîtes qui ont émergé du jour au lendemain. Alors que si on prend l'exemple du tissu de PME ETI, c'est que certes, c'est des boîtes familiales, mais qui ont mis du temps à passer at scale, de passer de on est 30 et c'est papa qui gère à c'est une boîte familiale, etc.
D'accord.
Je donne souvent l'exemple du groupe Duval qui est pour moi vraiment l'exemple d'une réussite en France. Et c'est ça de passer at scale. Et ça, aujourd'hui, on le fait pas encore assez souvent.
Un côté R&D aussi, parce qu'on dit toujours en pointe sur l'Allemagne, c'est-à-dire qu'ils ont une culture d'investissement dans la R&D qui est un peu plus poussée que les boîtes françaises, tu penses ?
Alors là-dessus, je m'avancerai pas trop, parce que je pense quand même que les Français ont aussi une grosse culture de la R&D, et je prends souvent
les très bons ingénieurs.
Voilà, exactement. On a, je pense, les meilleurs ingénieurs du monde. On a un des meilleurs centres qui est quand même le CNRS, où, enfin, moi, j'ai fait une partie de mes études à Polytechnique et tu vois des choses qui sont assez bluffantes. La seule chose, c'est que les Allemands, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont très vite premiumisés. Ils sont très vite investis dans des secteurs de pointe. Et je vais donner deux exemples que tout le monde va pouvoir comprendre. Le premier, c'est évidemment la voiture. Mmh. Aujourd'hui, pourquoi les voitures allemandes sont les plus cotées du monde ? Parce que c'est des voitures premium et que ça a toujours été le cas. BMW, à la base, faisait des moteurs d'avion. Lamborghini faisait des moteurs de tracteur. Pourquoi ils ont réussi à premiumiser une offre qui, à la base, ne l'était pas ? Ça, c'est leur approche. Et je vais donner un autre exemple, ce qui est la première boîte dans laquelle j'ai bossé. C'est le leader mondial de l'outillage industriel. C'est une boîte qui ne vous parlera peut-être pas, qui s'appelle Hoffmann. Ils font environ 1,5 milliard de chiffre d'affaires et ils font de l'outillage de précision. C'est-à-dire qu'ils vont créer le tournevis spécifique pour fermer les vis d'Airbus, par exemple. Mmh. Et c'est le tournevis, il coûte 200 euros. Et ça, c'est l'ingénierie allemande. C'est la premiumisation de ton offre.
Ah, c'est fort ce que tu dis, oui, sur le niveau de le positionnement, le premium et de rien lâcher pour être le meilleur d'un secteur, quoi. Qui est un peu dans les valeurs. Alors, on va aller dans la dernière partie du podcast. C'est intéressant. Alors, je passe du coq à l'âne. Je crois que tu es très investi sur le sujet féminisme. Tu as donc travaillé un peu sur ce mémoire autour du féminisme. Tu peux, comme d'où c'est venu ce projet, en fait ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est toujours assez marrant quand on explique qu'un mec s'en occupe aussi. Mais je pense que c'est ouvert à tout le monde. Et en réalité, c'est né du transport à la base, puisqu'on rencontrait des problématiques de sécurité dans les transports, notamment pour les femmes et dans les bus, par exemple.
Qui sont moins représentées forcément dans ces industries. Hein.
C'est exactement ça.
D'accord.
Et en fait, le problème de la poule et de l'œuf, c'est qu'il y a de l'insécurité dans les transports, parce qu'en fait les transports sont pensés par des ingénieurs hommes pour des ingénieurs hommes, et donc on en oublie, bah, en fait, hors les violences, il y a aussi le siège qui n'est pas la bonne taille, la ceinture de sécurité dans les voitures, etc. Ouais, etc.
On est là quand même.
Non, mais il y a des exemples, on peut en citer des millions, et donc en fait j'ai été intégré au sein d'un groupe il y a deux ans à la Commission européenne qui s'appelait les ambassadeurs pour la diversité dans le transport, et donc on se réunit deux fois par an pour discuter des grosses problématiques liées à la sécurité, mais aussi à l'inclusion. Typiquement, et quand je dis l'inclusion, c'est...
Oui, handicap.
Exactement, voilà. C'est le handicap. Et en réalité, cette cause, elle m'a beaucoup plu, elle m'a beaucoup parlé, parce que je me suis retrouvé quand même qu'avec des filles, il faut le dire. Et en fait, soit les filles, elles t'acceptent, elles disent « Ah, c'est bien, il faut que tu fasses cet effort-là, il faut que tu comprennes », soit elles te rejettent, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi. Et en fait, quand tu comprends que le système est créé par des hommes pour des hommes et qu'il y a une espèce de népotisme, qu'on entretient.
Bah, c'est bien, t'es engagé. Hein.
Non, mais je pense que le jour, en fait, moi, je vois ça d'un point de vue très pragmatique, c'est plutôt de se dire, c'est un pragmatisme économique. Le jour où on arrive à ce 50-50, ce qui n'est pas du tout le cas, en réalité, on va créer plus de valeur. Et donc, cette valeur-là, il ne faudra pas la chercher ailleurs. Donc, typiquement, c'est pour ça qu'on bassine tout le monde avec il faut un board avec 50% de femmes, il faut du middle management avec 50% de femmes. Bah oui, mais il faut aussi permettre aux femmes d'avoir un meilleur accès au congé maternité, d'avoir plus de liberté pour pouvoir mieux élever leurs enfants, un retour à l'emploi, etc. Et c'est ce que j'ai voulu traduire dans ce livre ou mémoire qui va sortir courant avril, qui s'appelle Reconstruire le féminisme. L'objectif, c'est de permettre à des gens qui comprennent rien du tout, et je donne souvent l'exemple de je dois expliquer ça à mon père ou à ma grand-mère, bah en fait, tiens, lis le livre, c'est un peu moins de 200 pages, c'est simple, c'est étayé, et ça te permet de comprendre aussi. C'est pas faire du finger pointing, tu vois, parce que la difficulté aujourd'hui du féminisme, c'est que tu vas très vite dans ah, vous faites pas bien ci, vous faites pas bien ça, ou tout le monde est martyrisé. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plus de se dire, bon, une fois qu'on a compris à peu près d'où ça venait, et en fait, c'est des centaines et des centaines d'années de
patriarcat, quoi.
Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour? Et en fait, chaque action fonctionne, en fait. À
très
niveau.
Intéressant. Et ça, c'est étudié pas que sur le secteur automobile. Hein. T'as regardé différents types de secteurs, quoi.
Exactement. On est parti du secteur des transports et de l'automobile pour finalement se dire, mais tiens, est-ce que dans l'assurance c'est pareil? Est-ce que dans l'art c'est pareil? Et en réalité, t'as un constat qui est quand même relativement important, qui est le monde scientifique en général est construit par des hommes pour des hommes. Et ça, c'est juste parce que les femmes ont eu accès à l'éducation trop tard. Et finalement, c'est ça qui fait que, comme les mondes scientifiques sont les plus créateurs de valeur, pour l'instant, tu vois, tu crées des fusées, tu crées des trains, etc., il y a un népotisme qui s'est installé, qui disparaîtra peut-être dans 150 ans, je lui souhaite, mais c'est aussi, tant que t'en prends pas conscience, tu vas pas toi-même te dire le matin, ah oui, il faut que je fasse gaffe à ça.
Alors oui, donc l'Entertainment Lab, on parle souvent aussi de storytelling, de création de contenu, des nouveaux médias, parce que l'idée, c'est aussi de toucher le monde a changé, le digital est devenu extrêmement important. Comment tu vois ça appliqué au monde de la mobilité, dans les formats que tu trouves intéressants pour raconter l'histoire? Ça peut être d'un constructeur, d'une start-up innovante. En quoi tu crois là-dedans, toi?
Je pense que ce que vous faites, et d'ailleurs ce qui se passe comme shift peut-être de paradigme sur les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est extrêmement important, surtout pour dépoussiérer des mondes qui sont assez vieillots. Bon, alors on a des gros faiseurs en France, hein, Stellantis, Renault sur l'automobile qui font bien les choses. Mais en fait, l'objectif final, c'est quoi? C'est de faire comprendre à des jeunes de 18 ans ce qu'on fait. C'est peut-être le mec qui sait pas où il va orienter sa carrière. C'est ok, bah voilà le canal avec lequel je vais te parler. Et aujourd'hui, c'est TikTok, c'est tous les médias un peu avec des shorts vidéo.
LinkedIn, on l'a fait avec une boîte d'industrie qui avait montré un jeune chercheur qui venait d'être recruté. Parce qu'il y a des vrais sujets de marque employeur aussi.
Ouais,
hein. C'est de donner envie à certaines recrues de bosser dans telle ou telle boîte. C'est ce qui se joue aussi. Hein.
Tout à fait. Et je fais juste un parallèle là-dessus, c'est que nous, en étant dans le Green Tech 20, donc qui est un des processus de la French Tech, on a aussi une bonne publicité. La marque employeur, c'est extrêmement important. Le Great Place to Work et Green Tech, ça nous permet d'attirer beaucoup plus de monde. Alors, on est à Grenoble, donc c'est un peu un microcosme. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a deux questions à ta question. C'est comment tu te démarques en tant qu'employeur qui n'est pas forcément aussi connu que Renault. Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième, c'est comment tu communiques en fait aux gens lambda, c'est-à-dire les gens qui sont dans la rue, si tu dois leur expliquer ton métier. Si moi, je leur explique, ils vont s'endormir. Mais si je leur montre une vidéo TikTok qui dit, bah voilà, tu vois, ça c'est cool, on change le.
On fait des formats dynamiques.
Le moteur. Exactement, là. Et ça, typiquement, je pense souvent au crayon, qui est le média qui est en train de monter. Et je trouve ça intéressant, leur façon de vulgariser pas mal de sujets et de raccrocher des gens comme toi et moi à un audimat ou une audience qui a 10 ou 15 ans de moins que nous, en fait.
Non, c'est super intéressant. Le côté justement sur les contenus ou les formats, voilà, il y a une ou deux marques que tu trouves innovantes là-dedans, dans la manière dont ils créent du contenu?
Alors, je vais paraître un peu bateau, mais on cite souvent Burger King. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je regardais justement un short sur Burger King qui avait lancé une campagne contre McDo parce que McDo a été flagué pour avoir plein de, comment dire, d'additifs dans leur burger. Tu sais, les fameux E, les additifs E, E120, machin. Et Burger King disait que non, eux, ils en avaient pas. Ils avaient fait une vidéo en accéléré de montrer comment leur burger était en train de pourrir. Et en fait, ils s'étaient eux-mêmes créé un bad buzz à cause de ça.
Okay.
Et alors que je trouve que Burger King, le community manager, il devrait avoir une palme d'or, mais en fait, là maintenant, ils se sont trompés de cible. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, évidemment, sur les constructeurs automobiles, typiquement, je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien faites chez BMW, très bien faites chez Mercedes. On continue à nous vendre du rêve, mais tout en intégrant aussi la composante écologique qui est extrêmement importante. Certainement que j'oublie plein de marques très sympas, très innovantes.
Et Tesla, t'es vraiment en admiration devant ce qu'ils ont construit. C'est vraiment un acteur incroyable. Et tu penses qu'il peut y avoir un Tesla européen aussi?
Je pense qu'il peut y avoir un Tesla européen, oui. Faut pas oublier que Tesla, c'est pour l'instant une petite boîte qui est très très valorisée. Et c'est très très valorisé parce qu'en fait ils ont une chaîne unique de production. C'est ça qui fait que c'est magnifique, c'est que t'as une chaîne unique de production avec un réseau. Et en réalité, les gens ont tendance à oublier que ce qui a de la valeur, ce qu'on appelle l'effet réseau, c'est que t'as des concessions qui t'appartiennent, t'as des garages qui t'appartiennent, t'as un modèle qui t'appartient. Et finalement, tu rends le client captif, finalement. C'est ce qui se passe avec Tesla. Je ne suis pas spécialement en admiration. Évidemment, t'es en admiration devant Elon Musk, ça reste un entrepreneur. Tu n'aimes ou tu n'aimes pas, mais il a fait quelque chose quand même d'assez grand de sa vie. Je ne suis pas sûr que Tesla survivra, honnêtement, dans les prochaines années. Je ne suis pas sûr que ça survivra sous cette forme-là.
D'accord. Ah, ils vont manquer de poids, de solidité, quoi.
J'ai du mal à croire que tu puisses te mettre autant de gens à dos et quand même continuer à survivre. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que le vrai enjeu des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est vraiment la conquête spatiale.
Okay. François, on arrive toute dernière partie du podcast. Alors c'est la question que je pose toujours aux invités, c'est les goûts personnels en matière de création. Donc je sors un peu du scope. Donc, ça peut être ciné, série, livre, musique, voilà des choses que t'aimes, quoi, récentes ou de tout temps, je dirais.
Oui, alors moi je suis un grand fan de musique, mais tout style. Je pense que si quelqu'un écoute ma playlist, il se perce les tympans après. Mais en tout cas, je suis un très grand fan de musique, de tout ce qui se passe.
De metal, German.
Ça va, mais typiquement, je peux passer de Booba, pour lequel je suis un énorme admirateur, rien que pour la carrière, la création, à effectivement écouter du Chopin quand je travaille.
D'accord, très éclectique, quoi.
Ouais, bien sûr. Et je pense que ça fait partie aussi de ta façon, tu sais, de passer d'un mode à l'autre. Et après, le coup de cœur livre, le dernier que j'ai lu, c'est celui de Salomé Sacquet, qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi », que j'ai trouvé bien écrit, documenté, qui essaie de réconcilier un peu la compréhension qu'ont les jeunes du monde de la politique avec...
Il y a du taf, là.
Ouais, effectivement.
Pas que les jeunes.
Bah écoute, je crois qu'elle a fait moins de 300 pages, je crois qu'elle dit dans ses premières phrases, j'aurais pu en faire 900, quoi. Donc,
D'accord. Et ciné ou série ? Un petit film ou une petite série qui t'ont marqué ?
Série de l'an dernier, alors je suis un peu has-been, mais The Boys sur Prime Video, exceptionnel. Donc si vous connaissez pas, j'essaie de vous le pitcher du mieux que possible, mais c'est une série de super-héros qui sont en fait des super-vilains. C'est une boîte qui a comme effigie, enfin comme héros, en fait, des super-héros avec des super-pouvoirs. Et c'est eux qui sont un peu les idoles de l'Amérique. Et en fait, au fur et à mesure des séries, on se rend compte que c'est tous des super-vilains avec des vices de partout.
D'accord.
Et
les anti-héros.
Le pitch est assez incroyable et graphiquement, c'est très, très fort.
Et en ciné ?
Alors en ciné, je suis allé voir Killer of the Flower Moon, qui a été mal récompensé apparemment, mais que j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai trouvé le scénario assez incroyable, un petit peu longué forcément, mais
t'es gentil là. Moi, j'ai trouvé ça très long. Ouais. J'adore Scorsese, mais je trouve que
on va dire qu'il y avait une heure et demie trop. Mais j'ai trouvé
c'est Marty, il est pas, ça va, il a le Final Cut. Hein.
Ouais.
J'ai trouvé ça trop long quand même. Je trouve qu'à un moment, même si j'adore quand il a fait du long, hein, quand il a fait les casinos, quand il a fait les affranchis. Ou même Gangs of New York, mais je trouve que c'était moins fort du point de vue de l'histoire, moi, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé que c'était fort dans la mise en scène, la lumière, moi, et oui. Mais il ne m'a pas tenu, moi, pendant tout le film. J'ai décroché, moi.
Le jeu de DiCaprio fait que ça tient. Mais effectivement, c'était un peu longué, mais c'est le dernier film que je suis allé voir. Donc.
T'as pas vu Anatomie d'une chute ?
Non,
j'ai trouvé au-dessus, moi.
Apparemment, il y a ça et Le règne animal qui sont les deux grands films à aller voir.
Et toute dernière question, c'est le conseil, tu as un peu commencé à en parler d'ailleurs, les conseils que tu donnerais de transmission envers la nouvelle génération. C'est la toute dernière question que je pose à l'invité, de toi, de ta vie professionnelle, de ce que tu as envie de transmettre aussi sur ceux qui arrivent sur le marché, comme on dit.
Très modestement, je pense que les deux choses qui moi m'ont animé là, en tout cas sur les 10 premières années de ma carrière, la première c'était de se laisser surprendre par des opportunités, parce que sinon je serais jamais allé dans la mobilité, qui est pas forcément un secteur hyper sexy. Donc laissez-vous l'opportunité d'être séduit par quelque chose qui est pas forcément inné chez vous. Et la deuxième, c'est avoir une foi inébranlable en sa direction, en sa trajectoire. C'est de se dire, si tu sais que t'as envie d'avancer, faut se donner... En fait, faut se donner les moyens. Et là, pour le coup, il faut se lever chaque matin en se disant, j'ai mon but, je sais comment avancer, et c'est pas les embûches qui vont t'arrêter. Ça paraît bateau quand je le dis, mais...
La ténacité. Ça, c'est ce qui est revenu parmi le beaucoup d'invités du podcast.
Exactement. Il faut s'accrocher et il faut surtout, comme dit Aurel San, c'est faut que tu t'accroches longtemps, quoi. Si les gens te disent non, c'est faut que tu t'accroches longtemps, que tu continues.
Merci beaucoup, François. C'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.